Bien, donc, pour clore la matinée, avant la pause, je vous rappelle qu'il y a une restauration légère qui est prévue, sandwich vegan, végétarien ou omnivore, avec éventuellement un petit peu de kir ou des choses comme ça, hein, voilà, pour qu'il y ait un peu de fraternité et de sororité, qu'on puisse discuter entre nous. Et puis maintenant, on va écouter Luc qui va nous poser une interrogation sur la question de l'école inclusive, hein. C'est un grand truc à la mode. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça a un intérêt? Ou est-ce au contraire simplement une incantation ministérielle? À toi.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Luc Brulliard. Et donc, moi, je suis enseignant en Ulysse Collège. Voilà, à Bondy, là, pas loin d'ici. Et donc, moi, idéologiquement, je suis biberonné, j'ai été biberonné à la pédagogie Freinet, à la pédagogie institutionnelle et aux sciences de l'éducation. Voilà. Et donc, je pratique donc, l'enseignement en Ulysse Collège depuis maintenant 11 ans, voilà, dans un collège. Et je me suis intéressé, hein, à la question de l'école inclusive. Alors, parce que c'est un peu le paradoxe du travail que je mène, à savoir ce qu'on attend de moi, c'est que les élèves soient le plus possible conformes, je veux dire, à la norme scolaire, c'est-à-dire d'en faire des collégiens ordinaires. Et ce qui en soi est tout à fait légitime et honorable, mais qui pose un certain nombre de questions, et en particulier qui m'ont posé un certain nombre de questions sur les paradoxes qui étaient liés aux missions qui me sont confiées. Donc j'ai prévu, moi, d'intervenir un petit peu sur ma vision, hein, de ce que c'est que l'école inclusive, hein, qui est pas la vérité vraie sur la question, et puis de présenter en quelque sorte un peu quelques aspects de ce que j'ai essayé de mettre en place d'activité et d'esprit coopératif, voilà, avec un certain nombre de jeunes là qui sont dans ce dispositif. Alors, en gros, la mise en œuvre des pratiques coopératives sur le terrain de l'école inclusive, en classe ou ailleurs, ça s'inscrit d'abord dans une évolution scolaire qui est paradoxale. La première, c'est que l'école inclusive, elle aime plus les classes. L'école inclusive, elle veut des dispositifs. Et on nous met beaucoup en place des dispositifs. Les ULIS, d'ailleurs, maintenant, s'appellent des unités localisées. On a les mêmes en primaire, maintenant. Et également, de plus en plus, les établissements spécialisés, type IME, IMPRO, ont des unités, installent des unités dans les écoles ordinaires. Voilà. Ce qui pose un problème, parce que quand on fait de la pédagogie Freinet, la pédagogie institutionnelle, comme on l'a vu, c'est souvent la référence, c'est plutôt la classe, même en... comme ça a été dit, y compris de manière critique. Ensuite, l'idée d'une école inclusive, c'est qu'elle prend en compte chacun dans sa singularité, dans les besoins dits de compensation, et qui se heurte à une rude réalité, notamment la réalité des moyens, et donc de réponses limitées qui vont générer insatisfaction, déception, voire colère de la part de l'ensemble des usagers. Et ce qui, moi, m'interpelle le plus là-dedans, ce sera pour finir en introduction, c'est le fait que le statut des élèves, des jeunes qui relèvent de cette école inclusive, ça demeure un statut extrêmement flou, voilà, qui est plutôt incertain et plutôt insécurisant, parce que parfois ils sont... Alors déjà, ils sont souvent considérés comme handicapés, ce qui pose des gros problèmes en ce qui concerne les adolescents. Et puis parce qu'ils sont parfois un peu oubliés, abandonnés à leur sort, cobayes de pratiques pédagogiques aussi, et de pratiques des fois un peu aventureuses à mon sens. Et puis souvent ils sont infantilisés, ce qui est un des aspects qui m'exaspère le plus. Voilà, mais j'y reviendrai éventuellement. Et donc là-dedans, promouvoir des pratiques de pédagogie coopérative avec eux n'est pas forcément simple, n'est pas forcément aisé. Mais je pense que c'est salutaire, parce que sinon, je ne serais pas venu ici. Alors, premièrement, d'abord, comment on voit l'école inclusive? Alors, dans la terminologie scolaire, le terme inclusive, ça paraît assez récent, hein, c'est 2008-2009, si je ne me trompe pas, dans la foulée de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation de la citoyenneté des personnes handicapées, qui est elle-même, en fait, le prolongement d'un long mouvement sociétal de scolarisation adapté au public qui était considéré comme marginaux, voilà, depuis le début du XXe siècle. Alors, je pense qu'on peut aussi l'élargir à, au même mouvement, hein, qu'ont touché les femmes, les homosexuels, tout un tas de catégories de personnes, voilà, on va dire, j'ose dire avec beaucoup de guillemets, marginalisées. Mais bon, moi j'en resterai, à la question du champ du handicap. Voilà. Et donc, c'est la loi de refondation de 2013, hein, qui va confirmer que le service public d'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. Et puis, on a même Barbara Pompili, du Tourmalet de gauche, qui avait fait un rapport... je suis méchant, mais bon, j'aime bien quand même. Mais, elle avait fait un truc vraiment très bien, un rapport... je cherche le terme. Un rapport à l'Assemblée nationale, où elle mettait en exergue la nécessité, d'une éducation et d'une école inclusive. Et en gros, on en arrive à... L'idée était tout à fait géniale, c'est d'arriver à dire que l'école inclusive, c'est l'école ordinaire. Ça doit être, en fait, la norme, voilà. Et puis que c'est une idée à laquelle on doit s'attacher, que c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et pour aller dans ce sens, hein, force est de reconnaître que au niveau de l'école, même si on a beaucoup de critiques à faire à l'école, et moi je suis sur ce champ depuis un peu plus de 30 ans, il y a des progrès considérables qui ont été accomplis. C'est-à-dire que le nombre d'enfants handicapés qui est accueilli à l'école est exponentiel par rapport à... Les droits des familles ont été énormément renforcés, notamment par la loi de 2005, puisqu'avant, c'était quand même le parcours du combattant. Alors, ça l'est encore un peu, hein, mais là, dans les années 1990, moi, j'ai une voisine, dont les parents ont été les premiers à faire la demande pour que leur enfant trisomique qui passait le brevet ait droit au tiers-temps, parce que ça n'avait pas été prévu pour le handicap mental. C'est 1992, quoi, un truc comme ça. Hein. C'est pas au Moyen-Âge. Voilà. Donc on voit que maintenant, il y a quand même énormément de choses qui sont améliorées. Et puis, en termes de droits des familles, d'accueil et de scolarisation de public qui était jusque-là plus ou moins toléré, accueilli par l'école et surtout à la bonne volonté des professionnels. Pour autant, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que du point de vue des usagers comme des professionnels, on est plutôt dans un désenchantement complet. C'est plutôt le désenchantement qui prédomine. Tout d'abord parce que les conditions matérielles et humaines d'accueil ne sont pas à la hauteur, comme vous le savez, de la croissance exponentielle du nombre d'élèves qui relèvent maintenant de l'école inclusive. Voilà. Mais surtout, on peut y revenir sur la manière un peu technocratique dont ça se passe, mais surtout, ce qui est l'aspect sur lequel il me semble important d'insister, c'est le ressort idéologique sur lequel ça s'inscrit et qui va faire qu'on va rendre suspecte toute objection aux conditions de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions qui sont très difficiles, d'accueil. On est bien, et en gros, on nous dit, si vous ne voulez pas accueillir des enfants handicapés ou autistes ou je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas gentil, quoi. Vous êtes zémourien, quoi. Voilà. Et là, on est dans une situation qui est extrêmement difficile parce qu'on est dans une espèce de paradoxe où on ne peut pas s'imposer à des choses qui, matériellement, techniquement, humainement, sont parfois insupportables, intolérables, y compris que ce soit pour ceux qui accueillent, les enseignants, que ce soit aussi pour les enfants et les jeunes qui sont accueillis et leurs familles. Voilà. Et donc, moi, c'est là-dessus que je trouve que, sur l'aspect sur lequel il me semblait un des aspects les plus importants sur lesquels on pouvait s'interroger au niveau de la réflexion qu'on peut avoir sur l'école inclusive, au-delà, je veux dire, de plein d'aspects un peu technocratiques qui la caractérisent. Voilà. Alors, je vais peut-être pas insister justement sur les modalités complexes. Hein. Alors, je ne sais pas si vous savez comment un jeune arrive dans ce monde un peu particulier de l'école inclusive. Alors, pour faire simple, hein, il faut que les parents fassent la demande pour un enfant. Hein, c'est les parents font une demande, voilà, qui est validée par la maison départementale du handicap. Donc qui va valider une demande. Et puis qui va énoncer donc une comment je cherche le terme voilà elle va notifier voilà une aide un dispositif etc à charge de l'éducation nationale d'assurer l'intendance. Ce qui fait qu'on est dans un monde un peu étonnant où tout le monde se casse la tête et moi qui ai entre guillemets la chance de voir un petit peu dans le département de la Seine-Saint-Denis comment ça se passe, la plupart des gens ils sont bienveillants, même les inspectrices spécialisées c'est plutôt des personnes sympas et tout, mais tout le monde croule voilà sous le poids du fonctionnement voilà. Alors, du coup, il y a effectivement un décalage entre les attentes des familles voilà, et des jeunes et les capacités à répondre aux besoins voilà, par l'institution scolaire. Et du coup, on a des choses qui sont absolument épouvantables, qui sont l'absence du respect des droits des familles, des gosses qui sont scolarisés nulle part ou qui sont scolarisés dans des endroits qui ne sont pas prévus pour eux. Également une pénurie d'enseignants spécialisés qui fait que c'est souvent des vacataires, des gens qui ne sont pas volontaires, qu'on balance sur des dispositifs avec des jeunes qui ne sont pas préparés à ça non plus. Dans le secondaire, des chefs d'établissement qui n'y connaissent rien. Voilà. Bon, dans le premier, je crois aussi que les IEN n'y connaissent pas grand-chose non plus, mais bon, voilà. Et donc, un certain nombre de difficultés importantes. Alors, une des réponses, on a ces aspects-là, et puis, les réponses qu'on peut donner, en général, il y en a plusieurs, la réponse majeure, c'est l'externalisation du problème. On renvoie à d'autres la prise en charge. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faudrait 4 millions d'AESH dans le département de la Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a des demandes d'AESH pour tout, et on pense que ça va être la panacée d'avoir quelqu'un qui va être à côté du petit gamin pour l'aider à faire ce qu'il a à faire pour être un bon élève. Voilà. Il y a aussi la chasse à l'orthophoniste. Alors, chez nous, il faut un an et demi pour avoir un rendez-vous. Enfin, voilà. Les orthophonistes sont croules, débordés, etc. Voilà. Et puis, donc, on a cet aspect-là d'externalisation et puis d'appel à l'étayage. Et puis d'appel aussi à la formation. Et donc moi j'ai des collègues qui voudraient être formés à tout, à l'autisme, aux troubles de ceci ou cela, etc. Et d'ailleurs mardi, j'interviens dans mon collège pour présenter un certain nombre de... Voilà, la demande, hein, c'était marrant parce que je ne vais pas y répondre bien sûr, mais la demande c'était qu'on nous explique comment c'était un autiste, quoi. Voilà. Et donc, quand je dis non, j'interviens qu'une autre collègue là-dessus. Et donc, nous, on a dit, on va jouer le jeu un petit coup. Mais en fait, on va dire non, on s'en fout. Ce qui compte, c'est, qu'est-ce que tu peux faire avec le gamin X, comment il s'appelle? Parce que des autistes, je ne sais pas combien il y en a en France, mais pour chaque autiste, il a son... c'est une personne, quoi. Donc, il faut l'apprendre comme elle est. Et donc, comment s'en sortir, ce truc-là? Voilà, donc on a ces situations-là. Et puis, l'appel à l'AESH, c'est-à-dire à l'aide supplémentaire, et qui pose également un certain nombre de problèmes sur lesquels je veux bien revenir un peu après. Et puis, on trouve aussi, de la part de la hiérarchie, notamment des inspecteurs ASH, la volonté de faire des activités spécifiques en groupe restreint. Donc on voudrait qu'on fasse des petits modules. avec quatre gamins comme ci, trois gamins comme ça. Et là, on épuise des gens à leur faire faire des activités avec des petits groupes qui, du coup, sont pas stimulants. Et on se retrouve dans les situations qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est souvent les enseignants qui travaillent et pas les gosses. La question des modules, c'est ça, c'est souvent ce truc-là. Voilà. Et puis, du coup, en fait, on crée des situations où les gamins, bah, ils ont plus leur mot à dire. Donc, on se retrouve avec un éclatement des activités qui fait que les jeunes n'ont plus leur mot à dire. Et ce qui est déjà, enfin, alors, c'est déjà des dispositifs qui sont assez éclatés, puisque le dispositif Ulysse, c'est pas si vous voyez un petit peu ce que c'est, mais c'est que c'est des élèves qui sont une partie du temps dans leur classe de référence et une partie du temps dans les dispositifs. Voilà. En fonction de leur possibilité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup, comment échapper un peu à tous ces travers donc, moi, comme j'étais nourri aux pratiques coopératives, je me suis dit comment on pourrait mettre en place des pratiques coopératives dans un milieu où... voilà, où on nous demande en gros de former des jeunes à être des collégiens ordinaires, et puis comment on peut leur permettre d'échapper un peu à tous ces travers là de l'absence d'aide ou de la suraide qu'ils peuvent recevoir. En fait, c'est pas si simple, voilà, parce que il faut trouver des vraies pratiques, voilà, qui sont des vraies pratiques coopératives avec des jeunes qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà. Donc on se retrouve un peu comme... quand il y a des aspects assez proches de ce qui se passe pour les profs du secondaire ou les gens qui... comme il y en a un parmi nous dans la salle, qui font des expériences de type pratique coopérative dans le supérieur, à l'université ou ailleurs. Voilà. Et donc... Moi, ce que j'ai essayé de faire, le premier élément, hein, pour moi, c'est essayer ce qu'on appelle désinsulariser, voilà, j'ai y arrivé, ce qu'on appelle le handicap. Voilà. Pour reprendre, c'est une formule que j'ai reprise à Sylvie Cana, qui a travaillé sur la pédagogie institutionnelle adaptée. Voilà. Et essayer de sortir aussi de cette marginalité scolaire, hein, voilà, en accueillant les élèves, les jeunes, dans leur singularité et en l'accompagnant aussi dans l'élaboration, mais c'est l'élaboration à lui de sa fonction d'élève et pas dans la fonction d'élève que l'institution voudrait lui désigner. Et surtout, moi, un élément essentiel que je trouve, c'est éviter l'infantilisation récurrente des jeunes d'Ulysse, parce que souvent on dit ah, mais ils sont gentils. C'est épouvantable, voilà. Ah ouais, mais tes élèves ils sont gentils, ils sont sympas. Bah ouais, mais on s'en fout, voilà. Ce qui compte, c'est qu'ils aient le brevet, quoi, qu'ils aillent au lycée, voilà. Donc c'est horrible parce que je veux dire, c'est cette infantilisation, moi je la trouve horrible. Et des fois, je suis obligé de me battre pour qu'il soit sanctionné un peu. Alors, un peu moins maintenant, mais au début, c'était oh non, on va pas faire un conseil de discipline. L'autre, il a sorti, il a démoli un autre dans la cour. Bah si, c'est un élève. Il faut qu'il aille au conseil de discipline. Même si on ne vire pas parce qu'on ne sait pas où il pourra aller, mais il faut qu'on fasse. Il faut qu'on montre que, bah non, t'es une personne, donc t'es traité comme une personne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des aspects majeurs pour moi. Et puis, coopérer, pour moi, c'est également éviter, voilà, ce que, pour reprendre la belle formule de Fernand Henry, d'éviter ce qui relève de la fantaisie du maître. Voilà. Et donc, c'est fixer avec les élèves un emploi du temps, assurer un rythme de travail cohérent, ritualiser des activités, et s'en tenir à ce qui a été énoncé, et puis proposer des activités de travail personnalisées en utilisant notamment tout ce qui existe comme outil de la pédagogie Freinet, qui là-dessus est tout à fait extraordinaire. En quelque sorte, rassurer en prenant au sérieux ce qui est attendu des élèves. Voilà. Et donc, en gros, voilà, pour faire simple, hein, ce que je fais moi avec ce groupe de jeunes, qui est un groupe un peu éclaté, et qui est de plus en plus éclaté. Alors c'est ça aussi qui est un des paradoxes, c'est-à-dire que finalement, plus les élèves sont en inclusion, moins je les vois, plus on est content, mais sauf que moins je peux faire de coopération. Donc il faut vivre avec. Voilà. Et donc moi, ce que j'ai fait, je mets en place, c'est effectivement alors un quad neuf que nous, on a appelé forum, parce que ça fait plus classe que quad neuf. Voilà, ça fait plus... Peut-être, je ne sais pas. Bon, c'est venu comme ça. On a dit on va appeler ça forum. Voilà. Après, on discutera si c'est pertinent ou pas, j'en sais rien. Voilà. On a appelé ça forum et bon, c'est le même principe. Hein, c'est-à-dire que le responsable il prend une fiche, il y a les mots-clés et puis il y a un ordre de passage. Donc c'est maximum 2 minutes d'intervention. Là, c'est les règles qu'on a fixées actuellement, hein, mais elles peuvent changer. C'est 2 minutes d'intervention, maxi, parce qu'après, de toute façon, on ne l'écoute plus, celui qui a parlé plus de 2 minutes. Et puis, on peut réagir. Voilà, donc il y a des réactions. Et donc, on a droit, dans chaque forum, à intervenir 3 fois, à poser des questions, intervenir 3 fois. Et on a à peu près les mêmes règles qui ont été dites par Isabelle, là, en particulier sur... Alors moi, ce n'est pas trop le secret... Parce que bon, dans l'ensemble, c'est pas très secret hein, ce qui se raconte, mais c'est le fait qu'on parle que de soi. C'est-à-dire que j'ai vu machin qui était en train de piquer des trucs dans le magasin. Non, voilà, on parle de soi. Si on veut dire qu'on avait piqué des trucs dans le magasin, on a le droit, mais on peut pas, on dénonce pas ses petits camarades. Voilà. Et puis Et puis effectivement, on se retrouve parfois dans des situations pareilles. Moi, j'ai un jeune qui a raconté qu'en se levant à 6h30 du matin, il avait fait le bordel et que son père l'avait attaché 2 heures sur le lit. Et là, on est mal parce qu'on se dit, est-ce que je dois respecter est-ce que je dois le signaler quand même parce que c'est quand même un fait grave, ou est-ce que je considère que ça reste à l'intérieur du secret des du forum quad neuf. Voilà. Et puis donc, c'est d'autant plus compliqué pour nous, parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est que quand on est en ULIS, on n'est jamais tout seul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, j'ai beaucoup d'intervenants, j'ai une AESH à plein temps, dans le Bahut, on a aussi des gens qui font service civique. Et donc, comme on ne sait pas quoi en foutre, on les envoie en ULIS. Mais en fait, parce que je dis ça, je suis un peu méchant, mais c'est parce que c'est au titre de l'école inclusive qu'on peut recruter des services civiques. C'est une très bonne idée, parce que c'est des jeunes, ils ne sont pas encore blasés, ça les intéresse. Du coup, j'ai toujours du monde dans la classe. Quoi. Et donc, par exemple, cette histoire avec le gamin qui a raconté ça, c'est difficile à gérer, parce qu'il faut que je gère aussi avec les adultes pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Alors. Bon, pour terminer, en gros, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des vraies activités de coopération ? Moi, je travaille au-delà de ça. Cette année, je n'arrive pas à faire de conseils parce que je n'ai jamais assez d'élèves. On est tellement éclatés qu'il n'y a pas de moment, en gros, où il y a tout le monde. Alors sinon, il aurait fallu créer une heure de vie de classe, mais les trucs du genre 15h30, 16h30 le lundi où ils n'ont pas envie de venir, quoi. Donc, on essaye de trouver, on a trouvé un autre système, un peu, on note sur un cahier, on se refile les infos, mais c'est un peu moyen, j'avoue. Hein, voilà. Et puis, sinon, il y a 3 projets pour fédérer aussi les jeunes du dispositif. D'abord, on participe à Collège et Cinéma, un truc qui s'appelle Collège et Cinéma, qui est un truc extraordinaire. On voit 4-5 films par an. Et sur des thématiques un peu générales, grossières. Et donc avec eux, moi je travaille la séance de cinéma. Et puis d'une part, on les emmène au ciné. Et puis on les emmène dans des cinémas qui ne sont pas ceux de Ronny 2, qu'ils ont l'habitude de voir. Et ils voient des films aussi qui leur ouvre l'esprit, et je trouve ça intéressant. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que là, pour revenir un peu à ce qu'on avait vu sur Jacques Otto au début, moi je ne les connais pas plus les films, la plupart du temps. Voilà. Donc on découvre ensemble, Voilà, ces choses-là. On a une deuxième activité qui est... on participe à un truc qui s'appelle le Festival des sports partagés en Seine-Saint-Denis, qui est un truc aussi tout à fait intéressant. C'est-à-dire que c'est un grand meeting avec toutes les classes qui sont inscrites. Et donc, il y a des classes spécialisées, il y a des adultes handicapés, il y a des classes ordinaires, etc. Et tout le monde se retrouve pour une journée pour faire du sport, et du sport adapté et du sport pas adapté. Voilà. Donc, des activités de sport pas adaptées. Et alors, le truc qui est intéressant, c'est que là-dessus, parce que bon, en soi, c'est un truc sympathique, mais c'est en fait l'aboutissement d'un autre cheminement qui est que des groupes handicapés sont gemmellés avec un groupe de jeunes qui sont, on va dire, pas handicapés, hein, valides. Et donc, on se rencontre. Et nous, ça fait 2-3 ans qu'on rencontre un peu les mêmes d'un autre collège voisin. Et ça a été d'ailleurs la grande surprise, parce que la première fois qu'ils se sont rencontrés, on est allé chez eux, et les jeunes, ils croyaient qu'ils allaient avoir des gosses en fauteuil roulant, ou alors complètement handicapés. Et puis, ils se sont rendus compte, ils ont dit à leur prof, ils disent, mais en fait, ils sont comme nous, quoi. Voilà. Et du coup, on fait des activités communes. Nous, on les a invités, c'est exprès, on a fait des activités de sport cérébral. On les a invités chez nous et on a fait des beaux croisés, des machins, des enquêtes, des codes, des trucs. Et on a essayé justement de changer un peu les codes, c'est-à-dire que ce soit les handicapés qui fassent faire des activités intellectuelles aux autres. Et puis, on fait aussi des trucs à la noix ensemble, sorties patinoires, enfin des machins comme ça. Et après, ça se termine par une journée où ils sont mélangés ensemble pour faire des activités. Et d'ailleurs, on a appris que c'était rigolo parce qu'ils se voient en dehors maintenant. Voilà, c'est rigolo parce qu'ils vont en dehors. Et puis donc, il y a aussi chaque année, pour terminer, nous, on travaille à un projet qui s'appelle Culture au collège, chaque année. Donc, on a un intervenant, une intervenante qui vient chaque année. Et donc, on découvre... alors moi, c'est pareil, j'aborde avec eux des trucs où ils sont beaucoup plus calés que moi. Et là... On a travaillé, on a fait du théâtre, on a fait, ça fait 2 années qu'on fait aussi des courts-métrages. Et donc on a une intervenante qui vient et qui fait avec eux un court-métrage documentaire. Donc l'année dernière, c'était sur les thèmes actuels qu'on trouvait dans la mythologie. Donc, la question de l'inceste, la question du harcèlement, etc., à travers des textes de la mythologie grecque. C'était vraiment le truc, j'avais jamais pensé que ça pourrait exister. Hein. Et de retrouver dans les textes de la mythologie grecque des aspects qu'on pourrait rediscuter. Voilà. Et cette année, on fait un truc absolument invraisemblable à mes yeux, au départ, c'est pour ça que j'ai choisi, ça s'appelle « Paysages et paysans de Seine-Saint-Denis ». Voilà. Et donc, alors, j'ai découvert aussi, je savais un petit peu vaguement, mais l'endroit où ils vivent, moi, mes élèves, c'était des champs, quoi. Il y a 40, 50 ans, avant qu'on construise des infâmes bars à Bondy Nord, et que la ville de Bobigny, par exemple, était, avec le charme qu'on lui connaît aujourd'hui, était une ville où il y avait énormément d'agriculture, quoi. Et donc on découvre ça, ils font un film là-dessus, et d'ailleurs le dernier truc, c'est là où moi je suis comme Jacques Otto, je me retire, c'est qu'ils vont faire un rap sur la poésie Le Laboureur et ses enfants. On va se marrer quand même, voilà. Voilà. On va se marrer quand même. Parce que moi, en bon instinct, j'aurais appris à lire la poésie du laboureur et ses enfants. Et je ne sais plus comment c'est venu, mais ouais, si on pouvait le faire en rap. Et donc, ils vont se filmer en train de faire ça en rap. On va... voilà. Donc, voilà un petit peu. Alors, moi, c'est quelques exemples pour terminer de pratiques pédagogiques coopératives qui sont souvent prônées, mais dont la mythe. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire des trucs qui sont peut-être modestes, mais qui sont effectifs. Voilà. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est que ça permet à ces jeunes d'abord de se sentir entendus. Voilà. C'est leur affaire un peu. Et moi, j'aime bien être dans un truc où c'est eux qui prennent un peu la main, quoi. Voilà. Et où et d'être avec eux, et là je retrouve la pédagogie freinet, sur la production d'un truc concret, même si c'est modeste et concret. Bon, là, je dis, il n'y a aucun effet magique, hein, mais j'essaye de trouver des entrées pour enrichir leur pensée, parce que c'est souvent ça qui est le gros problème des élèves. Et pas que des élèves appelés handicapés, hein, mais on est en situation de handicap, comme on aime bien dire, pour faire genre. Voilà. Et bon, pour leur permettre un peu d'essayer de s'ouvrir sur le monde, et puis s'inscrire dans une future citoyenneté, qui ne soit pas que du papier. Et voilà. Bon, juste pour l'anecdote, actuellement, je m'amuse beaucoup parce que moi, j'ai des élèves là qui sont en train de construire leur première identité politique avec les histoires qui se passent à Gaza. Voilà. Et donc, moi, j'ai des pro-palestiniens, là, les mêmes qu'à Sciences Po. Et ça m'a fait beaucoup rire de penser qu'on discutait de la même chose dans mon dispositif qu'à Sciences Po. Et moi, je fais l'imbécile qui connaît rien. C'est ça qui est drôle, quoi. Parce que, donc, j'apprends plein de trucs sur... parfois douteux, mais, mais en même temps, bon, c'est normal qu'on fasse son apprentissage politique.
Ok.
Voilà, merci.
Merci Eric. Y a-t-il des remarques ou des témoignages sur ces questions ?
Je m'appelle Johanna, j'ai travaillé dans le domaine du social, pédagogique et artistique. Et par rapport à cette notion de l'inclusion, est-ce que ce terme, de façon sous-jacente, il ne dit pas que... il y a une exclusion de fait, en fait. Et donc, il y a une norme très dense. Et juste par rapport à cette notion de handicap, j'ai travaillé dans une institution où on disait que les enfants étaient porteurs d'un handicap. Voilà. Aussi, pour revenir à ce que vous disiez sur la fantaisie, je ne sais pas si j'ai bien compris, du maître, mais elle n'empêche pas la structure et la ritualisation. Et c'est tellement important que les maîtres aient de la fantaisie, parce qu'il est peut-être aussi temps de considérer l'enseignement comme une action artistique en elle-même, aujourd'hui. Et juste pour revenir, oui, voilà, sur la question, c'est est-ce qu'on les instituteurs qui sont, ou les enseignants qui sont pleins d'idées, d'imagination, de férus, comme vous dites, nourris de tout ce qui s'est fait de mieux, sont condamnés à agir chacun dans leur petite sphère. Et est-ce qu'il n'est pas temps, par rapport à ce que disait le premier intervenant, de repenser l'éducation, mais de façon un peu conceptuelle à la base, et de réfléchir à qu'est-ce qui fait éducation et comment toutes les sphères de l'environnement de l'enfant, elles interagissent, et aussi de l'adulte. Et qu'est-ce qui est éducatif aujourd'hui? Et donc, ce que vous disiez, monsieur, de sortir aussi que de la classe, de l'école, mais même du quartier, des parents, du lien avec des parents, voilà. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on parte de là aujourd'hui pour vraiment proposer quelque chose de révolutionnaire? Et moi aussi, je suis là, en fait, pour rencontrer des personnes qui ont envie de réfléchir à tout ça.
Merci bien. Donc, on prend encore deux questions, Eric, et tu répondras rapidement.
Moi, c'est
ensuite.
Luc, mais c'est pas grave. Hein? Je ne sais pas pourquoi, Luc, tu veux toujours... On se connaît depuis 50 ans, il m'appelle Eric. C'est pas grave.
Donc, professeure des écoles dans le 93 et militante à la CNT. Moi, j'ai deux questions assez précises. La première, c'est sur le glissement de la classe à dispositif. Moi aussi, ça m'interroge. Je suis dans une école où il y a un dispositif Ulysse avec une coordinatrice Ulysse. Et c'est des termes qui m'interrogent beaucoup et qui sont assez frais, assez nouveaux. Et j'arrive pas à voir, à calculer exactement ce qu'ils veulent mettre derrière. Et l'autre question, c'est comment on fait un conseil avec les enfants porteurs de handicap, sachant que dans mon dispositif Ulysse, il y a des enfants qui sont lourdement handicapés, c'est-à-dire que la parole n'est pas du tout en place. Là. Enfin, ils sont handicapés, quoi. Autisme profond, trisomie, incapable de faire quoi que ce soit. Mis à part, en tout cas, en conseil, j'entends, pas en dehors du conseil, mais en conseil, j'ai du mal à percevoir comment on construit ça. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis. Merci.
Voilà, donc, à toi maintenant.
Toujours Noémie, personne. J'avais une question qui est encore organisationnelle et structurelle. On parle d'inclusivité dans l'enfance et je questionnais le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre soin de soi et de structurer la bienveillance et dans la réciprocité, notamment sur le fait que on est étonné parfois de ne pas tenir sur la longueur, d'avoir une dynamique de sprint mais pas de marathon. Et donc je questionnais en fait s'il y avait des structures ou des mises en place, des initiatives aussi, de ce que j'entends aussi, de ce que je remarque dans les prises de parole et remarque Est-ce qu'il y a du soin qui est instauré chez les enseignants, enseignantes ? Est-ce que des dynamiques sont prises pour engendrer une collectivité, une organisation de bienveillance entre les enseignantes pour tenir sur la longueur, en fait ? Parce que je remarque beaucoup d'inclusivité chez les enfants, mais je ne remarque pas tant que ça chez les enseignants, enseignantes. Et donc, je me pose des questions.
Ok, merci. Attends, il y a une petite question subsidiaire.
Je ne me rappellerai plus.
J'ai pas pris de crayon,
je ne me rappellerai plus ce qu'il faut.
T'es bref, Tite, s'il te plaît.
Oui, bonjour, Tite Rosel, on se connaît. Oui. Toute ma carrière dans le champ du handicap. Moi, je voudrais que tu nous parles un peu des murs de verre. Hein, parce que le fait de parler d'inclusion, ça permet soit de médicaliser la difficulté scolaire et les difficultés sociétales, et ça permet également de maintenir des murs de verre qui, sur lesquels tout le monde se cogne, les parents, les enfants, les jeunes et les profs.
Merci à toi, Eric.
On se connaît depuis quand, 1990 ?
J'aime bien te voir dans
ben, c'est pas grave. Bon, les gens changent de nom, il va me changer mon prénom, c'est pas grave. Oui, alors, pour commencer, par rapport à, je pense, plus globalement à tout ce qui est cette terminologie, parce que je reprends un peu les deux questions, elle me semble intéressante aussi. Enfin, j'ai parlé de ce que ça veut dire que inclusion, est-ce que c'est pas une manière aussi de parler d'exclusion, ou en tout cas de marginaliser un certain nombre de choses, franchement, je sais pas tout à fait. Enfin, ce qui moi m'embête, c'est qu'on a souvent un discours un peu enrobant. Voilà, genre que on a des beaux titres, par exemple. Oui, moi je suis coordinateur Ulysse. Enfin, avec ça, voilà. Coordinateur, ben, ça veut dire quoi ? Alors, c'est là où c'est un peu pervers, quoi. C'est qu'en gros, tu fais plus la classe, quoi. C'est-à-dire que faut que tu t'occupes de ce qui se passe. Tu suives les élèves qui sont en inclusion, qui sont dans les autres classes. Voilà. Et enfin, moi, c'est pas ma manière de faire. Je suis plutôt, comme je suis ancien, moi, j'ai plutôt envie de faire des trucs avec les élèves, et compris quand je fais les accompagnements. Voilà. Et moi, je me présente jamais comme coordinateur Ulysse, parce que je trouve ce terme con, quoi. Voilà. Et, voilà, c'est celui qui est utilisé et qui renvoie bien aussi, je veux dire, effectivement, à un certain nombre de d'aspects. Alors, je sais plus les autres qu'il y avait comme autres par rapport aux terminologies. Oui, alors il y a tout ce truc, c'est porteur de handicap, en situation de handicap, handicapé, machin, etc. Alors moi, j'ai pas de religion dans le domaine, je veux dire ça exprès, parce qu'on est, chez les anards. De toute façon, à chaque fois, ça coince, quoi. C'est-à-dire que si on dit handicapé, ben, c'est mal vu. Si on dit en situation de handicap, alors c'est un aspect qui est intéressant parce que c'est, que je trouve assez juste, c'est-à-dire que c'est comment ça met en jeu l'environnement, mais en même temps c'est peut-être aussi une manière d'euphémiser les choses. Porteur de handicap, alors moi c'est un peu porteur de haut, j'aimerais pas cette expression, je sais pas. Chacun voit un petit peu. Là-dessus, moi, ma posture avec les élèves, c'est leur expliquer ce que ça veut dire, à mes yeux. C'est-à-dire que handicapé, c'est que tu as un dossier MDPH. Voilà. Une personne qui est handicapée en France, c'est une personne qui a légalement, c'est juridiquement une personne pour laquelle on a créé un dossier MDPH. Voilà. Et ça peut être, et comme je leur dis souvent, bah, si tu es pianiste et qu'on te coupe un doigt, dis-moi, je m'en fous, ça m'empêcherait pas de bosser. Si je suis pianiste professionnel et que je perds un doigt, eh ben, je suis obligé d'avoir un dossier à la maison du handicap. Et pour la même situation de handicap, ça me crée des problèmes qui ne sont pas les mêmes selon la place que j'occupe socialement, ou le métier que j'exerce, ou la personne que je suis. Donc, moi, je leur dis, voilà. Et c'est pas facile, parce que moi, par exemple, les dossiers MDPH, très souvent, et y compris dans un autre document qui est véhiculé par l'école, qui s'appelle le GIVASCO, en gros, il y a marqué dessus si l'enfant, il est propre, quoi. S'il sait s'habiller tout seul, etc. Moi, j'ai des gamins de 14 ans, ils prennent le RER tout seul, ils vont aux manifs, ils sont allés aux manifs pour défendre la Palestine. Et sur les documents qu'ils peuvent voir, parce qu'on leur donne, on coche s'ils savent faire pipi tout seul, quoi. Voilà, pour dire les choses avec franchise. Donc moi, ma position, c'est de leur dire, voilà, légalement, ce que c'est que d'être handicapé, que ça peut arriver à tout le monde, etc. Et qu'en plus, c'est pas marqué là. Donc s'ils sont porteurs du handicap, ils ont un dossier MDPH, et ben, ils s'appellent comme eux, ils veulent. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, j'en sais rien.
Mur de verre pour conclure.
Alors, mur de verre, je ne sais pas trop ce que tu voulais dire, Tide.
Attends. Non. Ce que tu précises,
ouais.
Mais au micro.
Ouais, c'est de Sylvain Connac.
Ouais, il en parlait parce que l'inclusion, elle vient aussi d'un modèle européen, où en Italie, en Belgique, un peu partout, les personnes ont à la fois l'instit, un instit spécialisé qui vient, et les soins CESAD. Et si tu fais revenir les personnes qui étaient exclues par l'appareil scolaire sans ces supports-là, Francoviac, il parle des murs de verre. Ils sont dans l'école, mais on ne les accompagne pas comme eux devraient être accompagnés.
Alors,
Attends, avant de répondre, Eric, je crois qu'il y a une question qui t'a été posée, qui n'a pas été bien.
Ah ouais, peut-être, sûrement, hein, parce que.
C'est pas grave, ça me permet de rebondir. En fait, quand j'ai parlé de porteurs de handicap, c'était pas d'un point de vue politiquement correct. C'était par rapport au fait de questionner et d'élargir la notion de norme. Voilà, donc on s'est un malentendu.
Merci, tu conclus.
Oui, alors je conclue parce que j'ai oublié aussi par rapport à la question qui avait été posée par rapport à la fantaisie du maître. Et la formule de fantaisie du maître de Houri, c'est justement d'éviter que ce qu'on voit souvent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sage, on ne fera pas sport, ou vous n'avez pas été sympa, on fera par plastique, ou je ne sais pas quoi, tous ces trucs qu'on entend, et ou qui changent des règles qui ont été soi-disant établies. C'est ça qu'il appelle la fantaisie du maître. Et c'est dans ce sens-là que je le prends, moi, en disant on a décidé qu'on faisait ça, on fait ça, quoi. Et c'est pas parce que tout à coup ça m'emmerde, j'ai pas envie de le faire. Pour répondre à Tilde, franchement, alors, moi j'ai connu la période, pour faire simple, où ils avaient lancé les CLIS. Et les UPI, et où ils avaient l'idée absolument, à mes yeux, extravagante du plateau technique. C'est un truc qui s'est lancé, et puis évidemment, ça n'a pas marché. C'était de faire justement que pour chaque dispositif, il y a appareillé un genre CESAD, un service de soins ou un truc comme ça. Et c'est un truc qui a été vite, vite abandonné. Enfin, moi, je trouvais l'expression absolument épouvantable, mais bon, voilà. Mais c'est ce qui a été abandonné, parce que faute de combattants, quoi, parce que je veux dire, il n'y avait pas assez de monde. Après, je sais, enfin, moi, ce que je trouve quand même, pour être positif, pour rester sur un truc positif, c'est que, globalement, enfin, moi, je suis dans l'affaire depuis 30 ans, et il y a quand même des sacrées améliorations. Voilà, je veux dire que.
Merci à toi. Donc, on va rompre là pour rompre le pain, si j'ose dire. Donc, il y a une petite restauration, je vous le disais. On se retrouve dans une heure ici même. Pour une nouvelle projection autour d'un personnage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Paul Robin, qui a été un des grands pédagogues libertaires du début du XXe siècle. Voilà. Et puis on aura des interventions dans l'après-midi aussi, et dans lesquelles vous pourrez bien sûr intervenir à la suite de nos invités. Merci à vous.